Deux grains de grenade, comte du Maghreb, recueilli et traduit par J. Sel Mili, première cassette, deuxième face, page 41, suite de l'histoire du couscous enchaîné. Le soir venu, les enfants de Ben Salem se retirèrent dans leur chambre. Sa femme s'endormit. Il fit semblant d'en faire autant, mais il avait laissé la porte à demi fermée pour ne point faire de bruit. Et quand il vit la sas grimper vers son trou dans les solives, il entr'ouvrit doucement la porte, le vit contourner la cour sur la cime du mur de clôture et sauter dans la ruelle. Ben Salem se précipita donc vers la porte de la cour, suivit sur la pointe des pieds l'assas qui s'acheminait noblement vers le jardin familial. Le maître marchait à pas feutrés sur ses traces. À sa stupéfaction, il vit déboucher de divers côtés d'autres chats. Ils se réunirent sous un buisson. Et de ce buisson, il vit sortir, non pas les chats, mais un groupe d'hommes qui se dirigèrent vers le silo. Ils étaient vêtus comme lui d'une gandoura blanche. Bravement, Ben Salem se joignit à eux. La clarté lunaire qui coulait par l'entrée de la grotte permettait de distinguer une grande guessaa de bois. Une guessaa, c'est un plat en bois en forme de coupe. Une grande guessaa, donc, laissée par la famille au cours de ses repas d'été, qui était par terre, au milieu de la salle, et pleine de couscous. Ben Salem fut très intrigué de voir que sur le rebord assez épais de cette guessaa se trouvait une chaîne qui épousait le contour circulaire du plat. Il s'assit sur les talons, comme tout le monde, autour de la guessaa, sans être apparemment remarqué. Mais, comme les convives muets ne se décidaient pas à mettre la main au plat, tu sais qu'au Maroc, on met sa main directement dans le plat, on n'a pas de fourchette ou de cuillère. Ben Salem, après avoir saisi de la main gauche la chaîne qui entourait le couscous, se mit à lancer, pour le rompre le silence, suivant le rite, un sonore « Bismillah », c'est-à-dire « Au nom de Dieu », la bénédiction que l'on prononce avant de manger, avant de prendre de sa main droite une poignée de couscous. Aussitôt, un éclatement terrible ébranla l'atmosphère. « Badaboum, badaboum, boum, boum !» Comme si tous les convives pulvérisés se dissipaient en ouragan. Ben Salem, effrayé, tenait solidement sa chaîne, mais la guessaa se soulevait elle-même de terre. Tremblant de tous ses membres, Ben Salem, dès lors seul dans la grotte, se cramponnait des deux mains à la chaîne de la coupe de bois qui s'élevait dans les airs, l'entraînant jusqu'au plafond de la salle. Longtemps, il resta ainsi suspendu. Mais peu à peu, tout rentrait dans le silence, l'ordre et la nuit. Alors Ben Salem se laissa retomber. Le lendemain, après cette nuit bouleversante, il raconta les faits à ses amis de sa confrérie qui l'accompagnèrent à la grotte. La guessaa, des chats djinns, des chats esprits, fut trouvé et transporté avec honneur jusqu'à la mosquée du pays. Les mosquées, c'est les églises des pays musulmans, tu le sais bien, où depuis elle sert dans les cérémonies religieuses. L'histoire suivante s'appelle « Le café et le lait ». Il était une fois un roi très équitable, très bon, aimant profondément ses sujets et si soucieux de bannir de son pays toute iniquité qu'il se rendait lui-même à travers monts et vallées auprès de chaque tribu pour rendre en personne la justice. Ce monarque était simple et modeste. Ses déplacements se faisaient sans apparat, quelques gardes du corps, son cuisinier et son préposé au café, son kawadji, comme on dit là-bas, C-A-H-O-U-A-D-J-I. Le roi s'asseyait souvent au pied d'un arbre et écoutait comme un père de famille les plaintes de ses fellahs, c'est-à-dire de ses paysans. Le kawadji recueillait dans la nature quelques sarments de vieux bois, quelques herbes sèches et préparait, entre deux pierres, un feu sur lequel il mettait sa petite bouilloire ou mijotait un café dont le parfum était déjà un réconfort. Il achetait aussi à quelques pauvres gens le lait de leurs chèvres ou de leurs brebis qu'il chauffait séparément. Le roi, dans ses longues stations d'audience, était ragaillardi par ce café. Mais il prenait toujours soin de le mêler avec ce lait très pur qui adoucissait son breuvage et en blanchissait la couleur. De son coin de foyer improvisé, le kawadji suivait du regard la succession des plaignants et profitait d'une pause pour se présenter au roi avec son plateau en débitant à chaque fois sa petite chanson qui disait « Voici le café et le lait, vous tous saluez, le prophète aimé, que celui qui creuse contre son frère un puits soit le tout premier à y être englouti. » Peu de gens pouvaient discerner le sens de son petit quatrain. Le kawadji, depuis 30 ans où il suivait le roi dans ses déplacements, avait adopté un style particulier d'habillement. Sur sa djellaba, d'une propreté impeccable, la djellaba, c'est une espèce de robe, ça ressemble un peu à une robe de chambre qui aurait un capuchon, si tu veux. Il laissait retomber un pan de son hammama. Ce hammama, c'est-à-dire ce voile de mousseline immaculée, lui entourait d'abord la tête, puis, dans un second tour, lui voilait, à la manière des bédouins, c'est-à-dire des hommes du désert, tout le bas de la figure, y compris le nez et la bouche, ne laissant à découvert que les yeux. Enfin, il se servait de l'extrémité libre pour tenir le manche de sa bouilloire. Un jour, un homme fut jaloux de la confiance que le roi donnait depuis tant d'années à son kawadji et désira remplacer ce dernier dans ses fonctions. Profitant d'un instant de solitude du souverain, ce jaloux s'approcha de lui et lui dit « Sire, excusez-moi de venir vous importuner, mais je ne peux supporter ce que je viens d'entendre. » « Que veux-tu dire ? » « Et savez-vous pourquoi le kawadji qui est à votre service a toujours le bas de son visage voilé par son hammama ?»«
Non, c'est son habitude. » »«
Eh bien, j'ai appris que ce garçon est pourri et que son haleine est si fétide que s'il ne se voilait pas la figure, votre café dégagerait une odeur infecte. » Le roi fut bouleversé. C'était donc pour cela que ce kawadji, jouant la modestie, habitait hors les murs, de façon à éviter tout contact avec les gens de la ville qui auraient pu surprendre l'horrible secret. Le souverain savait que dès la prière de l'aurore, lorsque le muezzin monte sur le minaret, la tour de la mosquée, pour appeler les croyants à la prière, son serviteur se présentait le premier devant les gardes de la porte de la ville pour venir prendre son service au palais. Le roi appela ses gardes et leur dit « Demain matin, vous vous saisirez de l'homme qui se présentera le premier devant la porte de la ville » et vous irez le pendre. » Or, il se trouva que notre envieux, qui convoitait la place du kawadji, et pensait bien que celui-ci serait condamné à l'aube, alla se poster près de la porte de la ville afin d'être le premier à se présenter au palais dès l'exécution. Il arriva même avant le Kawadji. Et ce fut lui qui fut pendu. Lorsque ce matin-là, le roi vit arriver son Kawadji dans toute sa sérénité et la blancheur de son hamama immaculé, il fut stupéfait. Le bon serviteur chantonna comme à l'habitude « Voici le café et le lait !» Le roi, cette fois, prêta attentivement l'oreille. « Vous tous saluez, le prophète aimé, que celui qui creuse contre son frère un puits soit le tout premier à y être englouti. » Le roi commençait à comprendre. Il appela ses gardes pour leur demander s'ils avaient exécuté le premier passant se présentant à la porte de la ville. Sur leur réponse affirmative, le roi se rendit au gibet et reconnut le calomniateur. Il revint et dit à son serviteur, « Sois sincère, explique-moi pourquoi tu vois le bas de ta figure avec ton hamama. » Et le disciple de pureté répondit, « Sire, lorsque je cherche des brindilles dans les bois pour allumer votre feu, je peux froisser de petites herbes dégageant quelque odeur et aussi salir mes mains ou mon visage de cendre ou de noir de fumée. Ne convient-il pas que votre serviteur soit aussi blanc que le lait qu'il vous sert, que la prière du prophète et que la justice que Dieu vous inspire ?» L'histoire suivante s'appelle « Jiha et l'administration ». Jiha, D-J-I-H-A, c'est le nom d'un homme. Jiha a toujours eu une vieille rancune contre l'administration sous toutes ses formes. Cadi, c'est-à-dire juge, percepteur, qui récolte les impôts, gendarmes, fonctionnaires et ministres. Sa fantaisie s'est mal accommodée tout le long de sa vie des exigences de l'organisation sociale. Aussi décida-t-il un jour de donner une bonne leçon à ces personnages opulents et solennels qui semblent n'être créés que pour ennuyer le pauvre monde et s'enrichir à ses dépens. Il prit donc son bourricot, son âne, et le mena paître le long d'un ruisseau dont les berges étaient recouvertes d'une herbe qui s'appelle le xel, Q-S-E-L, herbe qui a comme propriété caractéristique de donner la colique, un peu comme la rhubarbe ou l'oseille chez nous. Lorsque l'âne fut gavé de xel, il le fit boire largement. Après ce double traitement, l'âne vit son ventre gonfler à souhait. Jiha souleva alors délicatement sa queue et introduisit, oui, sous sa queue, tu vois ce que je veux dire, une poignée de pièces d'or. Après quoi, il prit le bourricot par son licol et l'amena au centre de la ville. À leur passage devant un grand café populaire où se pressait une foule d'ouvriers en train de susurrer le thé ou leur kawa, c'est-à-dire leur café, Jiha se mit à donner une forte bourrade à l'âne qui, tout essoufflé, se mit à parsemer la route de larges flaques jaunes au centre desquelles brillaient des pièces d'or. Les braves gens assis au café n'en croyaient pas leurs yeux, et tandis que Jiha s'affairait à ramasser les pièces d'or, ils l'entendirent grommeler. « Bourricot de malheur, tu m'as dévoilé. Jamais tu ne m'as fait ça en public. Tu ne pouvais donc pas attendre d'arriver à la maison. » Tout ébahi, quelques bavards qui avaient vu la scène se précipitèrent pour aller la colporter aux autorités. Vers 7 heures du coucher du soleil, les fonctionnaires avaient l'habitude de venir dans un riche café situé un peu plus loin. Là, derrière les tentures, Nos informateurs donnèrent la nouvelle. Voilà que Djiha a maintenant un âne qui fait de l'or. Il est en colère contre lui parce qu'il en a fait devant nous et que nous l'avons tous vu. Les honorables personnages tinrent conseil et se dirent qu'il fallait trouver un moyen de s'approprier l'âne de Djiha. Peut-être ne voudrait-il pas le vendre, mais si au moins on pouvait le lui louer, quel que soit le prix qu'il ne manquerait pas d'en demander, l'opération serait certainement fructueuse. Ils convinrent donc de louer l'âne un jour chacun à tour de rôle. Le ministre des Finances se rendit le premier chez Djiha. « Oh Djiha, nous savons tous que ton âne fait de l'or. » Hélas, dit Djiha, il m'a fait un scandale ce soir. En général, il ne fait que ça qu'à la maison. Tu pourrais nous le louer? Combien? 1 million, proposa le ministre des Finances. D'accord, dit Djiha. Le ministre paya sur le champ. Puis il demanda quel soin particulier était donné à l'âne du point de vue de son régime. Djiha répondit. Le régime, c'est moi qui m'en charge. J'irai mener l'âne chez vous demain soir, et il n'y a qu'un point délicat. Mon âne est susceptible. C'est un âne de luxe. Il n'est inspiré que si le cadre lui plaît. Il aime les beaux tapis persans, les cachemires de soie, les coussins de brocart, les dentelles précieuses. Aménagez au rez-de-chaussée votre salon pour le recevoir dignement et montez dormir à l'étage de votre villa. Ne le dérangez surtout pas pendant la nuit. Au réveil, vous serez ébloui. Le lendemain, Djiha amena son âne brouter ses fameuses herbes. L'excelle. Il le fit boire et sans plus attendre, il l'amena dignement au palais du ministre des Finances. Devant ce ventre rebondi, son excellence, le ministre, souriait d'aise en pensant à la récolte d'or qui suivrait. On avait déployé sur le parquet et sur les sofas toutes les réserves d'étoffes et de tapis précieux de la maison. Une fois l'âne installé et bien installé, le ministre monta dans ses appartements. Mais sa nuit fut agitée. Il entendait l'âne très nerveux aller, venir, braire, se trémousser, piétiner d'une pièce à l'autre. Lorsqu'au petit jour, le ministre des Finances descendit, il ne restait plus un pouce de surface vierge, ni par terre, ni sur les sofas, ni sur les murs, et jusqu'au plafond. Partout, des taches, des flaques et des éclaboussures, de ce que tu devines. Le ministre était effondré. La ruse du compère éclata à ses yeux. Mais après avoir bien réfléchi, le ministre se dit qu'il ne voulait pas passer pour un imbécile et qu'il reconduirait l'âne à Djiha sans faire de remarques. De même qu'il ne soufflerait pas un mot de l'aventure à ses collègues. Après tout, ils avaient fait le pacte à 7. Il avait payé sa part, les autres n'avaient qu'à en faire autant. Le jour d'après, l'âne fut donc hébergé chez le cadi des cadis, c'est-à-dire le chef des juges. Celui-ci paya 100 millions. Il eut la même surprise et le même réflexe de silence que le ministre des Finances, et ainsi des 7 plus hauts dignitaires du pays. Quand l'un d'eux demandait à l'autre « Qu'est-ce qu'il t'a donné de bon ?» l'âne de Djiha. L'autre répondait, la même chose qu'à toi. Mais tous pensaient en eux-mêmes, « On se vengera,
rira bien qui rira le dernier. »
Après cette prouesse, Jia trouva prudent de s'éclipser. Il dit à sa mère, « Va chercher un nahash. » Un nahash, c'est un brancard sur lequel, dans ces pays d'Afrique du Nord, on transporte les morts. Rapporte-le en pleurant et dis à tout le monde que ton fils est mort, que moi je suis mort. Pendant ce temps-là, il est allé creuser sa tombe et il a préparé une sorte de panneau en planche de la même superficie que la fosse, avec à hauteur de la tête un trou rond facile à boucher par un couvercle mobile. Il a dissimulé ce panneau dans les parages. Puis on procéda à l'enterrement. Jiha, avec l'or des fonctionnaires, avait muni sa mère de sommes assez importantes, car il imaginait qu'après toutes ces excentricités, peu d'amis accepteraient de porter son corps sur le brancard et qu'elle devrait les payer assez largement. Il s'étendit donc sur le brancard, se fit recouvrir du suaire, c'est-à-dire du linceul, du drap, dont on recouvre les morts, et même laissa dépasser son pied droit par un bout du suaire pour que tout le monde fut bien sûr que c'était lui qu'on enterrait. Les quatre hommes requis par la mère vinrent, soulevèrent le nahash, le brancard, avec Jiha dessus et recouvert du linceul, et allèrent au cimetière en passant par la rue centrale de la ville, pendant que la mère suivait, les cheveux épars, en se lamentant, « Jiha, oh Jiha, oh mon fils chéri, tu es mort !» Les porteurs, une fois arrivés, déposèrent le brancard à terre, et Jiha fut allongé doucement au fond de la fosse. Puis ils se retirèrent. Alors Jiha, qui avait tout prévu, étendit à terre une nappe confortable, demanda à sa mère d'aller lui chercher un petit canoun, c'est-à-dire un petit réchaud, et le fer qui sert à marquer au rouge les moutons aux initiales de son père, pour qu'on reconnaisse les moutons quand ils sont dans la campagne. Chaque propriétaire de moutons marque les moutons sur leur peau avec un fer rouge où il y a ses initiales. Et sa mère lui apporta en même temps quelques provisions. Jiha la pria ensuite de mettre le panneau de planche au-dessus de lui pour refermer la fosse, la tombe, sans oublier le petit couvercle mobile sur le trou rond et de parsemer de la terre sur l'ensemble. Les bavards du café populaire n'avaient pas manqué d'aller annoncer aux notables du grand café l'enterrement de Jiha. Ils eurent tous la même réaction. Chacun se dit en lui-même, « Je vais me venger de ce sacripant. Ce qu'il a fait faire par son âne chez moi, j'irai le faire moi-même sur sa tombe. » Le soir venu, chacun à tour de rôle, après avoir soigneusement épié qu'il n'y avait personne dans les parages, alla assouvir sa vengeance. Le ministre des Finances se présenta le premier. Il regarda à gauche, il regarda à droite, déposa son pantalon et s'accroupit. Jiha, qui attendait ce geste, avait passé son fer au rouge sur son réchaud et avant que le ministre des Finances ait eu le temps de faire ouf, il le marquait aux parties charnues de son individu avec le fer à marquer les moutons. Le ministre sauta sur ses pieds, ramassa son pantalon et se demanda si la tombe de Djia était gardée par des diables. Chacun des sept notables subit de la même manière l'épreuve du feu sur ses fesses. Chacun garda, comme la première fois, le silence le plus total. Au bout d'un mois, Djia s'ennuyait dans son trou et ses provisions étaient épuisées. Il résolut de refaire surface. Il se rendit donc au café populaire de la ville. Les gens ouvraient de grands yeux. « Comment ? Tu n'es pas mort ? Mais pourtant, on t'a enterré ?
Ce n'est pas moi que vous avez enterré, c'est mon ombre !»
De plus en plus hardi, notre homme se rendit au grand café riche où se réunissaient les notables et il les interpella avec véhémence. Les autres, d'abord interdits, se ravisèrent rapidement en imaginant quelques nouvelles supercheries et se mirent à l'apostropher de belle manière. Alors Djia le prit de très haut.
« Comment toi, dit-il au ministre des Finances, tu me traites ainsi ? Alors que tu n'es qu'un ancien esclave de mon père, et toi aussi, Cadi, et vous autres aussi, tous, esclaves, fils d'esclaves.
Nous, esclaves ? Es-tu devenu fou ?
Mais non, je ne suis pas fou, ne niez pas, je sais que vous étiez les esclaves de mon père. Je vais vous attaquer devant le roi pour me manquer de respect.
Les badauds avaient afflué. Le scandale devenait intolérable. Les sept notables, Djia et la foule des spectateurs s'enfuirent donc devant le roi. Là, Djia continua ses imprécations contre ceux qu'il appelait les anciens esclaves de son père. Et le roi lui dit,
« Djia, tu n'ignores pas que dans des accusations aussi graves, tu joues ta tête. « As-tu des preuves de ce que tu avances ?»«
Bien sûr, Majesté. »«
Lesquelles ?»«
Sire, demandez-leur de baisser leurs pantalons. » Et le roi dut convenir qu'ils étaient tous marqués aux initiales du père de Djia, ce qui prouvait qu'ils étaient ses esclaves, puisqu'ils avaient été marqués comme du bétail.
Alors Djia, conciliant, dit au roi, « Sire, je ne vois que deux solutions. Ou bien ils continuent à travailler dans votre administration, mais alors j'exige la moitié de leur salaire. Ou bien ils refusent. Et comme ce sont mes esclaves, eh bien je les vends comme esclaves. »
Les sept notables acceptèrent tous la première solution. Voici maintenant l'histoire des trois Tolbas. Un Taleb, T-A-L-E-B, qui se dit au pluriel des Tolbas, T-O-L-B-A, c'est un étudiant en religion ou même un religieux qui enseigne. Tu sais que dans les pays musulmans, les enfants, avant d'aller à l'école primaire, vont d'abord à ce qu'on appelle l'école coranique, où ils apprennent l'alphabet et où ils apprennent surtout le Coran par cœur. Le Coran, C-O-R-A-N, c'est le livre saint des musulmans, un peu comme la Bible pour les juifs et les chrétiens. Trois jeunes Tolbas avaient décidé de se retirer dans un ermitage sur la colline pour s'y adonner à l'étude des livres sacrés, à la prière et à la méditation, afin de perfectionner leur science, d'affiner leur âme et de se préparer ainsi à la vie religieuse à laquelle ils entendaient se consacrer. Une simple maisonnette surplombant un vallon rustique et ensoleillé, une terrasse de terre battue à l'ombre légère de quelques oliviers et d'un jujubier, c'est une sorte d'arbre de ce pays, des murs blancs, quelques nattes, des tapis de paille tressée, un canoun, un petit réchaud, une gargoulette, une cruche dans laquelle l'eau se garde fraîche, c'est tout ce qui était suffisant à nos trois étudiants maîtres pour vivre et réaliser leurs projets. À la campagne, ce sont les habitants qui confient au Tolba leurs enfants pour leur éducation et leur instruction religieuse. Ce sont donc les paysans qui fournissent au Tolba ce qui est nécessaire pour leur nourriture. En effet, on sait que les Tolba ont l'habitude, chaque fois qu'un enfant a retenu définitivement, bien appris par cœur, cinq versets du Coran, du Livre Saint, de dessiner sur son ardoise, à la craie de couleur, une fleur. L'enfant présente fièrement à la famille son ardoise ornée du dessin du maître, et les parents le récompensent en lui donnant, selon leurs possibilités, quelques fruits, des légumes, une poignée de dattes ou de figues, une mesure de semoule pour le couscous ou des œufs que l'enfant va partager avec son maître au cours d'un repas dont il est l'invité. Si l'on joint à ces dons réguliers ceux des prémices des saisons, c'est-à-dire des premiers fruits, des premiers légumes, des premières récoltes, on comprend que de jeunes étudiants religieux puissent arriver à organiser ainsi, dans la simplicité et le recueillement, leur stage de retraite et d'initiation à leur futur enseignement. Une chose reste cependant très rare dans ce mode de vie, c'est la viande, car les fellahs, les paysans, sont en général très pauvres et peuvent difficilement donner de la viande. C'est pourquoi nos trois étudiants avaient décidé de se payer une fois par mois un gigot pour savourer ce jour-là cette viande que tout arabe aime tant, en souvenir sans doute des millénaires pendant lesquels leurs ancêtres étaient un peuple de bergers. Inutile de préciser que c'était le jour attendu de fête mensuelle. Or, le soir d'un de ces jours exceptionnels, les trois Tolba venaient d'acheter un superbe gigot et de le mettre à la marmite. Déjà le parfum du bouillon embaumait toute la pièce lorsqu'on frappa à la porte. C'était un vieillard qui paraissait harassé et qui demandait l'hospitalité. Des Tolba ne saurait refuser d'ouvrir à l'invité de Dieu. Ils le firent donc entrer, lui offrir une tasse de thé. L'heure de la prière du soir, l'achat, A-C-H-A, arrivait. L'homme fit sa prière. Le bouillon continuait à exhaler ses effluves. Les trois Tolba se regardèrent un peu gênés, souhaitant au fond d'eux-mêmes que leur voyageur reprît sa route et les laissa déguster leur gigot entre eux. Mais il n'était pas question de départ pour le voyageur qui paraissait affamé. Alors le trio de jeunes gens se retira sur la terrasse pour prendre le frais. « C'est vraiment pas de chance, » dit le premier Taleb. « Nous sommes obligés de l'inviter, » dit le troisième Taleb, « et nous serons forcés de partager. »« J'ai une solution, » dit le deuxième Taleb, « je vais le faire participer au paiement du gigot, mais il n'y goûtera pas. »« Comment feras-tu ?» questionnèrent les autres. « C'est très simple, je vais lui dire que de la coutume dans notre Zaouïa, Z-A-O-U-I-A, c'est-à-dire notre école religieuse, notre monastère, est la suivante. Le gigot, qui est notre régal exceptionnel, nous le faisons cuire le soir. Mais ce n'est que le lendemain matin qu'on décide celui qui le mange. Pendant la nuit, chacun rêve. Mange tout seul, tout le gigot, celui qui raconte le plus beau rêve. Alors, mon plan est clair. Toi, Ahmed, A-H-M-E-D, dit-il au premier Taleb, tu raconteras que ton rêve t'a amené à visiter les sept cieux. Toi, Moussa, M-O-U-2-S-A, dit-il au troisième compagnon, tu nous expliqueras comment ton rêve t'a fait visiter les sept terres. Or, après les sept cieux et les sept terres, moi qui resterai juge, je décréterai que toutes les merveilles du monde étant épuisées, le gigot ne saurait pas revenir à un autre. Les deux confrères se félicitèrent d'avoir un ami si astucieux. Et le trio revint dans l'ermitage et raconta le propos au vieillard, qui fut sans doute un peu déçu, mais donna sa petite participation pour le gigot, puis se drapa dans son burnous, son manteau, et s'endormit dans l'espérance du lendemain. Les trois tolbas en firent autant, et comme les jeunes hommes ont le sommeil puissant, ils dormirent jusqu'au matin. Le vieillard ne les entendit pas plus tôt ronfler qu'il se leva. La faim le tenaillait ferme. Il souleva délicatement le couvercle de la marmite, détacha un minuscule petit bout de l'extrémité du gigot et le savoura. Quel délice ! Il ébrécha encore avec discrétion une tranche très mince de sa partie pleine, puis, de bout en bout, et jusqu'au bout de la nuit, ne laissa que l'os. Il avait tout mangé. Au matin, nos trois gaillards se levèrent.
On a bien dormi.
Chacun fit ses ablutions, c'est-à-dire sa toilette, la toilette qu'un bon musulman fait avant sa prière. Puis, on prit ensemble le café. Le deuxième Taleb présida enfin à l'ouverture de la séance littéraire dont il avait si minutieusement réglé le scénario.
Tu as la parole, Ahmed. À quoi as-tu rêvé ?
Et Ahmed, les yeux en extase, dit qu'il descendait du septième ciel, son rêve l'ayant promené à travers les délices des sept cieux superposés. Sa description fut éblouissante.
C'est bon, mais toi, Moussa, ton rêve peut-il rivaliser avec celui de Ahmed?
Certainement, car les promenades dans les cieux conservent un certain flou que n'ont pas les promenades terrestres, dit Moussa. Sur notre planète, les beautés de la nature et des créatures sont infiniment plus réelles et sensibles. Or, mon rêve m'a fait visiter les sept terres.
Dans ces conditions, je crains, ami, dit le deuxième Taleb au visiteur, que vous n'ayez du mal à faire le concours. Qu'avez-vous rêvé ?
Le vieillard se passa la main sur sa figure crispée, comme pour éloigner un relent de cauchemar.
J'ai faim, dit-il. Un rêve atroce. Je dois vous avouer que j'ai été élevé par un oncle très méchant, brutal, ivrogne, malfaiteur, voleur. Il est mort et son sort éternel est certainement réglé. Car cette nuit, je l'ai vu sortir de l'enfer. Le visage noirci, les yeux comme des braises, brandissant sur moi une énorme massue de fer chauffée au rouge et me disant « Tu vas immédiatement manger ce gigot, sinon tu me suivras en enfer sur le champ. » Je n'ai pas osé lui résister. Vous m'en excuserez, ce n'est vraiment pas de ma faute. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Les Tolbas, inquiets, s'approchèrent de la marmite, soulevèrent le couvercle et ne découvrirent que l'os. Alors le second Taleb de s'écrier : Mais que fais-tu donc dans la vie, ô vieillard ?
Je suis un vieux Taleb, dit l'autre en baissant pudiquement les yeux.
Un grand éclat de rire fusa de la poitrine des trois apprentis casuistes devant cette déclaration. Ils avaient trouvé leur maître. C'est la fin de l'histoire des trois Tolbas et c'est en même temps la fin de la deuxième piste de la première cassette, page 61, Deux grains de grenade, conte du Maghreb, traduit de l'arabe et établi par J. Selmili. Laisse la cassette se dérouler jusqu'à la fin, et si ces contes t'ont intéressé, tu peux demander la cassette suivante. Au revoir.